Aujourd'hui, donc, nous recevons Serge Tisseron, que je présente. Serge Tisseron est né en 1948. Il est docteur en médecine et en psychologie. Il est psychiatre et psychanalyste, enseignant en psychopathologie à l'Université de Paris 7 et chargé d'une recherche sur les effets des images chez les enfants et les adolescents par le ministère de la Culture et la Direction de l'Action sociale. Il est spécialiste de la bande dessinée, de Tintin en particulier, qu'il a le premier analysé sous un angle psychanalytique. Ses recherches se sont orientées dans deux directions. D'une part, les secrets de famille et la honte qui les accompagnent. D'autre part, les relations sur les diverses formes d'images qui nous environnent. Et il s'intéresse pour cela à la photographie et à proposer une théorie psychanalytique de nos relations aux images. Il est vice-président de la Société de thérapie familiale psychanalytique et il fait également partie de nombreuses associations à caractère scientifique, national et international. Parmi ses publications, Serge Tisseron a publié plus d'une cinquantaine d'articles dans des revues spécialisées. Il est membre du comité de rédaction de Psychiatrie française et des cahiers de médiologie. Il a publié une quinzaine d'ouvrages personnels, parmi lesquels Tintin chez le psychanalyste, publié chez Hobby en 1985, Psychanalyse de la bande dessinée, publié d'abord au PUF en 1987 et qui va être réédité en décembre 2000 chez Champ Flammarion, Secret de famille, mode d'emploi, paru chez Ramsay en 1996, Le mystère de la chambre claire, qui est paru chez Champ Flammarion en 1996, Le bonheur dans l'image, paru chez Les empêcheurs de penser en rond en 1996, Il y a-t-il un pilote dans l'image, paru chez Aubier en 1998, Comment l'esprit vient aux objets, paru chez Aubier en 1999, et de même, il a participé à une trentaine d'ouvrages collectifs. Et à la rentrée, en septembre, il fait paraître Petite mythologie d'aujourd'hui. Voilà, Serge Tisseron, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi suivra un débat d'une vingtaine de minutes. Je vous remercie.
Merci. Merci. Le sujet qu'on m'a proposé de traiter devant vous est considérable. Ce titre, propagande, publicité, information et désinformation, nécessiterait des semaines, voire des mois de débat. Mais j'ai décidé quand même de garder son intitulé tel qu'il m'a été proposé, parce que cet intitulé me paraît présenter un avantage considérable, c'est de mettre sur le même plan les images de publicité et les images de propagande. Alors en effet, vous allez voir que ce sont les mêmes mécanismes, à mon avis, qui y sont mis en jeu, et vous allez voir surtout, ce qui est plus intéressant encore, que ce sont, à mon avis, les mêmes moyens de résistance qui doivent être développés face aux unes et face aux autres. Alors, il y a beaucoup de façons d'aborder ces problèmes de propagande, d'information et de désinformation. On peut le faire d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique. Moi, mon point de vue est évidemment lié à ma spécificité, c'est-à-dire que ma question sera une question de psychanalyste, et ma question précisément sera celle-ci. Pourquoi avons-nous tellement tendance à croire aux images ? Et d'ailleurs, je précise tout de suite que cette croyance dans les images ne concerne pas seulement les images visuelles matérielles, mais aussi les images véhiculées par le langage. Et il faut avoir toujours ça à l'esprit. Les images racontées ont tendance à se traduire en croyance exactement de la même manière que les images regardées, les images racontées lorsque un journaliste dit qu'il a vu certaines choses, qu'il raconte, lorsqu'il se présente comme un témoin fiable et objectif, eh bien ces images racontées ont le même pouvoir de faire adhérer à une croyance que les images montrées. Alors, la première chose importante à comprendre est que cette question de la croyance dans les images n'est pas une question qui concerne le savoir ou la connaissance. Nous savons tous que la connaissance que donne une image est toujours extrêmement partielle, mais je dirais que entre les images et l'homme, malheureusement ou heureusement, on verra qu'on peut tenir les deux discours, ce n'est pas une affaire de raison, on pourrait dire que c'est une affaire de cœur, mais encore une affaire de passion, de fascination, et je dirais qu'il me semble que c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui. Alors, le problème se pose de la façon suivante. D'un côté, nous savons bien avec notre esprit que les images ne racontent pas la vérité, qu'elles ne sont qu'un point de vue sur les choses, mais d'un autre côté, notre corps l'ignore. Et c'est là-dessus que jouent les publicistes. Nous savons bien, et les enfants comme les autres, que les publicités racontent des histoires, et pourtant, nous achetons les produits dont les publicités nous parlent. Et c'est là-dessus aussi que jouent toutes les propagandes. Les propagandes ne donnent pas forcément des images fausses, même si ça a été l'objectif des propagandes dans les années 30 à 50. Aujourd'hui, on pourrait dire plutôt que les propagandes sont plus subtiles, elles donnent des images partielles. Elles ne présentent pas ces images partielles comme la totalité de la vérité, mais sitôt que nous voyons ces images, eh bien nous sommes tentés d'y adhérer comme à la totalité de la vérité. Et je prendrai qu'un exemple, parce qu'il est récent, parce qu'il a amené beaucoup de commentaires. Pendant la guerre du Kosovo, on voyait à la télévision des colonnes de réfugiés albanais qui se pressaient à la frontière grecque, et ces reportages donnaient indiscutablement une image partielle de la complexité de la situation. Mais nous avions beau savoir que ces reportages ne montraient qu'un point de vue, nous nous sentions pourtant extrêmement proches de ces réfugiés et extrêmement agressifs et violents à l'égard de ceux qui les avaient réduits dans cette situation. C'est-à-dire que d'un côté, nous savions bien que ces images étaient un point de vue qui n'expliquait rien de la complexité des choses, mais d'un autre côté, nous ne pouvions pas nous empêcher d'y adhérer émotivement, corporellement, comme à des vérités. On pourrait dire que les images ne convainquent pas toujours notre intelligence, même rarement, mais qu'elles emportent toujours notre adhésion émotive. Alors, je commencerai par la publicité, parce que la publicité nous permet de comprendre quelque chose d'essentiel. C'est que dans les images, dans les croyances aux images, nous ne sommes jamais seuls. C'est-à-dire que si nous adhérons aux images, c'est toujours porté par le désir d'y être avec d'autres. Alors, vous savez qu'autour de la publicité, et à la suite de Freud, beaucoup de commentateurs ont insisté sur l'importance des désirs sexuels. La publicité agirait en excitant les désirs sexuels, puis en les détournant. Et il pourrait s'agir d'une excitation directe, par exemple en associant la vision d'homme ou de femme dans des positions ou des accoutrements érotiques. Mais il peut s'agir aussi beaucoup plus souvent d'une excitation indirecte, parce que les organes sexuels, la rencontre des organes sexuels, peuvent être représentés à travers des métaphores innombrables. Et on peut dire que de ce point de vue, la publicité agirait un petit peu comme un pompier pyromane. D'abord, elle allumerait le désir sexuel, et puis ensuite, comme évidemment elle ne peut pas l'assouvir, eh bien, elle tenterait de l'éteindre, elle proposerait aux gens de l'éteindre en le détournant vers un objet à consommer. Alors, c'est vrai que parfois les choses se passent comme ça, mais je crois qu'on peut mieux comprendre encore comment elles se passent si on a à l'esprit que ces désirs sexuels attisés par la publicité ne sont pas des sources de plaisir, sont plutôt des sources d'embarras, voire de déplaisir. C'est pas confortable d'être excité. Preuve en est que nous cherchons, quand nous sommes excités, les moyens d'apaiser l'excitation. Et on peut dire que dans une optique freudienne traditionnelle, le client achète l'objet pour décharger sa tension sexuelle excessive, mais que très souvent, ce qu'il éprouve n'est pas de l'ordre d'une excitation sexuelle, mais de l'ordre d'un malaise, d'un sentiment de bizarrerie, d'angoisse, de honte, de colère. Et vous savez que c'est là autour que la marque Benetton a construit ses campagnes publicitaires. Or, si on en croit les publicistes, l'angoisse, la honte, la colère, le sentiment d'étrangeté, de bizarrerie, de gêne, le malaise, tout cela fait vendre. Alors, comment est-ce que tout cela peut faire vendre et qu'est-ce que ça nous apprend sur les images d'information ou de propagande ? Bien, pour comprendre comment de telles images fonctionnent, il faut avoir à l'esprit que nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, guidés par un désir fondamental qui est de nous donner des représentations de nos expériences du monde. À tout moment, nous baignons dans le monde, en quelque sorte. Nous avons des informations sur le monde qui nous sont apportées par nos organes des sens, des informations sur le monde et des informations aussi sur nous-mêmes, puisque nos organes des sens ont cette double polarité. Ils sont pour une partie tournés vers l'extérieur, mais pour une autre partie aussi tournée vers l'intérieur de nous, et nous visons à tout moment à nous donner des représentations de ce que nous éprouvons. Et ces représentations peuvent être sensorielles, émotives et motrices. Ce sont par exemple les émotions que nous reconnaissons comme telles, les motricités que nous reconnaissons comme telles. Ces représentations, bien sûr, sont imagées, sont les images psychique, mental, que nous nous constituons, les images que nous fabriquons. Et puis, ces représentations, bien sûr, sont verbales. Ce sont les mots que nous utilisons pour parler aux autres de ce que nous éprouvons. Et ce qui est important, c'est que dans tous les cas, ces représentations, nous avons besoin chacun de les valider, les authentifier, en les faisant partager à quelqu'un. Et on pourrait dire que c'est la source principale de la socialisation, c'est que nous sommes en permanence en train de communiquer, non pas pour communiquer des choses, ou pour, encore moins pour transmettre des choses, mais nous communiquons parce que c'est à travers la communication que nous nous construisons ces représentations, et que nous les faisons valider, authentifier par un tiers. Alors, si j'en reviens à ces fameuses publicités dont je vous disais qu'elles choquent, eh bien, vous comprenez mieux à partir de là comment elles fonctionnent. Ces publicités produisent un excès d'excitation, quelle que soit la nature de cette excitation. Cet excès d'excitation déstabilise, il menace la pensée, il menace la possibilité du spectateur de se produire des représentations dans lesquelles il reconnaît ses repères habituels. Et le spectateur, saisi par le trouble, va envisager résoudre ce dérangement de deux façons. Soit il va parler de la publicité, ce qui est encore une façon de rester dans la publicité, c'est une façon de se faire à son insu le porte-parole de cette publicité qui nous dérange. Le spectateur en parle pour gérer son stress, mais en fait il se met en quelque sorte au service du publicitaire sans s'en rendre compte. Soit évidemment le spectateur de cette publicité va acheter le produit. Et ce qui est important, c'est que en achetant le produit, eh bien il va trouver un moyen de résoudre son malaise, on pourrait dire de deux façons. Tout d'abord, il va se rassurer sur le fait que ce malaise qu'il a éprouvé, d'autres que lui l'ont éprouvé, et il va également se rassurer sur le fait que les autres personnes que lui, qui ont éprouvé le même malaise que lui, doivent vraisemblablement le résoudre en achetant le même produit. On pourrait dire que pour celui qui est malmené par une publicité et qui décide d'acheter le produit qui y correspond, eh bien c'est une façon de se rassurer deux fois sur sa normalité par rapport au fait que le malaise qu'il éprouve soit partagé et par rapport au fait que c'est une façon valable de résoudre ce malaise en achetant le produit. Alors évidemment, ces publicités qui choquent, qui bouleversent, sont toujours sur le fil du rasoir. Évidemment, si elles sont acceptables par une majorité de gens, bien qu'elles les bouleversent, ce sont des moteurs de vente. Et il est bien évident que si ces publicités vont choquer de telle façon que les gens refusent de s'identifier au groupe de ceux qui consomment les produits vantés par une telle publicité, eh bien à ce moment-là, la publicité ne marche plus. Vous savez que c'est ce qui est finalement arrivé aux publicités Benetton basées sur ce principe commercial. Et vous savez que récemment, Benetton a décidé de changer de stratégie. Alors, tout cela, je crois, peut vous sensibiliser au fait suivant. Vous voyez qu'il est très insuffisant de raisonner en termes d'impact émotif des images. Souvent, quand on parle des images de publicité, des images de télévision, d'information, de cinéma, on parle d'impact émotif. En fait, le grand problème de cette expression, c'est qu'elle laisse entendre que c'est l'intensité qui compterait. Mais vous voyez qu'en fait, les images qui font plaisir et les images qui bousculent n'ont pas du tout la même stratégie, n'ont pas du tout la même efficacité. Et vous voyez que les images, en fait, qui malmènent les spectateurs ont un effet bien particulier qui est de pousser ce spectateur à se rattacher au groupe de ceux qui sont censés, encore une fois, éprouver le même malaise, et encore une fois, tous ceux qui sont censés résoudre ce malaise de la même façon. Et je crois que c'est un peu pareil pour des images d'information qui nous malmènent, qui nous bousculent. Plus une image d'information nous malmène, plus elle nous bouscule, et plus elle a des chances de nous pousser à adhérer à un groupe. Et vous voyez que si on pense à la publicité en termes de désir sexuel, le grand problème, c'est qu'on s'empêche de penser la continuité qui existe entre les images publicitaires et les images de propagande. En fait, les images publicitaires et les images de propagande agissent de la même façon. Encore une fois, ce sont des images qui provoquent un excès d'excitation, un malaise, de telle façon que le spectateur est ensuite invité à gérer ce malaise en suivant le mode d'emploi qu'on lui propose. Et ce mode d'emploi peut être un produit à consommer, une ligne politique à suivre, ou ce mode d'emploi peut être simplement de souder un sentiment national autour du sentiment sentiment d'un scandale partagé, d'un scandale émotivement éprouvé ensemble par le groupe. Et si le mode d'emploi n'est pas donné en même temps que les images, eh bien, les spectateurs de telles images le cherchent, et ils le cherchent justement dans les règles des groupes auxquels ils appartiennent, et c'est l'un des résultats intéressants de cette recherche que je mène actuellement pour le compte de la Direction de l'Action sociale et du ministère de la Culture, c'est de montrer que les enfants à qui on montre des images violentes sont des enfants qui vont être beaucoup plus réceptifs aux mécanismes de groupe, ils vont être beaucoup plus empressés de suivre les consignes du leader, ils vont beaucoup plus renoncer à leur particularité personnelle au profit de la loi du groupe. Alors, vous voyez donc déjà que la référence au groupe, le désir qu'a l'être humain de faire partie d'une communauté, est quelque chose d'essentiel à l'impact des images. Mais ce n'est pas le seul moteur qui intervient dans la publicité ou les images de propagande. Et en fait, j'en reviens maintenant à ma première question. Pourquoi avons-nous tendance à croire ce que nous voyons ? Alors, en fait, cette question, pourquoi avons-nous tendance à croire ce que nous voyons, n'a pas une seule réponse, mais elle en a trois. Elle a trois réponses complémentaires, et vous allez voir qu'en fait, ces trois réponses complémentaires nous donnent également chacune la voie d'un moyen par lequel nous pouvons essayer justement de nous défendre contre les effets de fascination des images. Alors, cette question, pourquoi avons-nous tendance à croire ce que nous voyons, a donc trois réponses. Ces trois réponses concernent l'histoire de chacun. Et trois fois dans notre histoire, chacun d'entre nous avons été sauvés de croire à une image. C'est très important parce que sinon, nous ne pouvons pas comprendre à quel point nous avons tendance à croire aux images. La première fois où chacun d'entre nous avons été sauvés de croire à une image, c'est lorsque nous nous sommes constitués une première représentation visuelle de notre environnement et que nous avons décidé d'y croire. Je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure, mais l'être humain naît dans l'indistinction, dans l'indifférenciation, la construction d'une première image psychique du monde, une première image sensorielle et psychique du monde, est une grande conquête, et la décision d'y croire est quelque chose qui porte de grands progrès pour la personnalité. Et puis la deuxième fois où nous avons dû notre salut à croire à une image, c'est bien sûr quand nous avons découvert notre image dans un miroir. Là encore, si nous n'y avions pas cru, eh bien nous serions restés dans des sensations, des impressions, des états du corps dominés par le morcellement. Nous avons bien fait de croire que notre corps était unifié, comme nous avons vu dans le miroir. Ça nous a probablement sauvé à tous la vie psychique. Et puis la troisième fois où nous avons eu raison de croire aux images, eh bien, c'est lorsque nous avons accepté de croire aux images du monde, de la famille, que nos parents nous donnaient. Et bien entendu, lorsque nous avons aussi accepté de croire aux images d'eux-mêmes et aux images de nous-mêmes que nos parents nous donnaient. Eh bien, ces trois grandes situations que nous traversons chacun sont, je crois, la grande origine du fait que nous ayons toujours tendance à croire aux images. Alors évidemment, c'est moyennement intéressant de le constater. Ce qui est plus intéressant, encore une fois, comme je vous montrerai tout à l'heure, c'est de voir qu'à partir du moment où on comprend que notre fâcheuse tendance à croire toujours à la vérité des images trouve son origine là, à partir de ce moment-là, eh bien, nous pouvons définir des stratégies pour tenter de nous en guérir sans pour autant nous priver du plaisir des images. Alors, je vous disais, tout d'abord, première chose, nous avons tendance à croire les images parce que ce désir de croire aux images est inséparable du désir que nous avons eu, étant enfant, étant tout petit, de maîtriser le monde à travers les images que nous en construisions. On peut dire que, avant que l'être humain se construise des images, eh bien, il est noyé dans ses expériences corporelles, sensorielles, émotives, motrices. Et avec les images que l'être humain se donne, on peut dire que s'il commence à émerger de cet état et à se construire une espèce de premier écran sur lequel sa pensée peut advenir. Connaître, on peut dire, c'est d'abord se donner une image, et l'illusion où nous sommes aujourd'hui chacun adulte de croire que les images disent la vérité est en quelque sorte une espèce de tribut quotidien que nous payons à ce premier service que les images nous ont rendu. Nous avons d'abord chacun d'entre nous confondu le voir et le savoir et cela nous a rendu de grands services dans notre développement psychique. Le problème est que aujourd'hui, une fois que nous sommes adultes, cette expérience essentielle est également l'une des causes principales de la confusion où nous sommes toujours de croire à la vérité des images. La seconde raison pour laquelle nous avons tendance à croire à la vérité des images, comme je vous disais, concerne le narcissisme et précisément l'image de soi. Alors voir une image pour chacun d'entre nous réactive toujours en effet des enjeux du côté de la découverte de l'image de soi. On peut dire que se voir entier dans un miroir, c'est se croire entier pour de vrai. Et c'est là le second tribut que nous payons aux images et la seconde raison pour laquelle nous sommes tentés d'adhérer émotivement, sensoriellement à leur vérité. On peut dire que, encore une fois, quand nous avons découvert pour la première fois notre image unifiée dans un miroir, il a été essentiel pour nous d'y croire et de la même façon, nous continuons d'y croire. Et nous continuons d'y croire parce qu'il y a là toujours un petit peu du désir de nous guérir de l'angoisse, du morcellement primitif. On pourrait dire que celui qui croit à une image tente toujours d'une certaine façon de s'unifier, d'unifier sa perception de lui-même à travers l'image à laquelle il adhère. Croire à une image, c'est toujours un peu surmonter nos divisions intérieures, surmonter nos ambivalences, c'est vivre encore une fois l'illusion d'unifier nos convictions, nos croyances et même notre personnalité. Et puis la troisième raison pour laquelle nous avons tendance à croire aux images concerne, comme je l'évoquais à travers la publicité, notre adhésion au groupe de tous ceux qui croient ensemble à la même image. Il y a une fable qui rend très bien compte de cela, comme vous savez, c'est la fable des habits neufs de l'empereur. Des tailleurs brigands font croire à un empereur qu'ils lui ont fabriqué des habits invisibles. Et ensuite, chaque courtisan fait semblant de voir les habits, et puis le peuple entier fait semblant de voir les habits, et c'est finalement à un enfant qui est dévolu le rôle de pouvoir dire que le roi est nu et que les habits neufs de l'empereur n'existent pas. Eh bien, croire ensemble à la même image, même s'il n'y a rien à voir, même si au fond nous, nous doutons de cette image, c'est quelque chose qui nous rassure sur notre adhésion à un groupe. Et chaque spectateur qui adhère à une image ne le fait jamais du fait de du seul lien qui est établi entre lui-même et l'image, il le fait toujours en étant porté par le désir de faire partie du groupe de tous ceux qui adhèrent à la même image, que ce soit pour s'y reconnaître ou que ce soit pour s'en offusquer. On pourrait dire que l'image est une espèce de colle sociale, elle rassemble les gens et vous savez que dans l'histoire de toutes les collectivités, les images emblématiques, les images dans lesquelles les collectivités sont censées se reconnaître, sont extrêmement importantes. Et les images emblématiques fonctionnent même au-delà des personnes vivantes et qui peuvent partager la perception de la même image. Les images emblématiques créent même une sorte de communication virtuelle en l'absence de toute communication réelle. On peut dire que les images créent une espèce de mana, au sens ethnologique du terme, dans lequel chacun se sent pris et se sent baigné. Alors vous voyez que les images n'ont jamais seulement des enjeux d'information. Et c'est très important de comprendre que ces images que nous cherchons parce que nous désirons être informés, ou ces images qu'on nous montre en nous disant « si vous les regardez, vous allez mieux comprendre, vous allez mieux connaître », eh bien il faut avoir à l'esprit que les images n'ont jamais seulement ces enjeux d'information. Je ne dis pas qu'elles ne les ont pas, et je ne dis pas qu'elles ne les ont pas plus ou moins. Elles les ont toujours, et elles les ont toujours plus ou moins. Mais l'important, c'est de nous rendre compte qu'elles n'ont jamais seulement ces enjeux et que si nous sommes tentés d'y croire, ce n'est jamais pour des raisons d'information. Si nous sommes tentés de croire aux images, c'est parce qu'elles ont trois autres fonctions à notre insu, encore une fois. Tout d'abord, les images nous confirment dans l'idée que nous avons eu raison de désirer voir pour savoir. Et c'est valable, encore une fois, pour la première image que le nouveau-né se constitue du monde et sur laquelle il commence à se construire, mais c'est valable aussi pour tous les domaines qui ont poussé notre curiosité, et notamment la curiosité sexuelle. On pourra en reparler, mais je crois que le désir de voir et ce qu'on appelle et les enjeux sexuels de la curiosité sont en fait intimement liés à la fois dans l'histoire personnelle et dans l'histoire sociale. Donc, avoir tendance à croire à une image, c'est se confirmer dans l'idée, encore une fois, que nous avons eu raison de désirer voir pour savoir. Et puis, croire en une image, c'est nous assurer de notre intégrité narcissique. C'est souvent la raison majeure. Et puis enfin, croire à une image, c'est nous assurer de notre appartenance à un groupe, ceux qui sont censés croire en même temps à la même image dans leur poste de télévision, ou ceux qui sont censés adhérer à la même émotion que celle que j'éprouve. Alors vous voyez que le problème de la confusion entre l'image et la réalité n'est pas un problème cognitif, c'est pas un problème de savoir, c'est pas un problème de connaissance, même les petits-enfants savent bien que les images sont différentes de la réalité du monde. Ce n'est pas non plus un problème d'adhésion affective contre lequel on pourrait se protéger en gardant la tête froide. On peut pas, face à l'envahissement des images, dire il faut que l'information soit toujours froide, parce que dès que nous voyons une image, nous ne sommes plus dans la situation de rester froid. Vous voyez en fait que cette question de l'adhésion aux images est une question liée aux enjeux du narcissisme individuel et également du narcissisme collectif, et que c'est autour des enjeux du narcissisme qu'il est important de prendre cette question. Alors, avant d'aborder trois grandes orientations qui me paraît important aujourd'hui de privilégier pour lutter contre les effets d'adhésion et de croyance des images, on pourrait même dire les effets d'adhésivité et de croyance des images, je vais vous présenter ce que je viens de vous dire d'un point de vue un peu différent. Vous savez, il existe maintenant en informatique des logiciels qui permettent de tourner autour d'un objet et de le voir sous différents points de vue. Eh bien, ce que je viens de vous dire maintenant, je vais vous le dire d'un point de vue un tout petit peu différent. Les images, en fait, ont des pouvoirs très importants, qu'il est important que nous reconnaissions, et ces pouvoirs sont de deux grands types. Ce sont des pouvoirs que j'appelle d'enveloppement d'un côté et des pouvoirs de transformation d'un autre côté. Alors, qu'est-ce que c'est des pouvoirs d'enveloppement de l'image ? Eh bien, les pouvoirs d'enveloppement de l'image, c'est le fait que toute image se propose d'abord à nous comme un espace à habiter, à occuper, et même parfois comme une espèce de seconde peau que nous serions invités à endosser. Et je crois que c'est important de comprendre les choses ainsi, parce que quand on parle de narcissisme, de réunification narcissique à travers l'image, c'est quelque chose d'assez abstrait, c'est normal pour les gens qui ne sont pas familiers avec ce vocabulaire. Par contre, si on présente les choses en disant que les images sont des espaces dans lesquels nous avons le désir d'entrer, eh bien ça correspond mieux à ce que nous pouvons vivre quand nous jouons à un jeu vidéo ou quand nous nous projetons mentalement dans un film que nous pouvons voir. Eh bien, en fait, c'est la même chose. C'est une façon d'investir l'image comme un espace dans lequel nous pourrions entrer, évoluer, et comme un espace qui agrandirait, en quelque sorte, notre identité. Et tout cela concerne les enjeux du narcissisme, comme ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est une façon différente d'en parler. Alors, un autre aspect de ce pouvoir d'enveloppement des images, c'est de remarquer que, de la même façon, lorsque nous voyons une image, eh bien, nous avons toujours tendance à croire, à avoir l'illusion que ce qu'elle représente est présent en réalité. Vous savez, dans le film Tati Daniel, il y a une vieille dame qui parle à la photographie de son mari mort à la guerre de 14. Ça fait beaucoup rire les spectateurs, mais dans le film tunisien Alpha Wine, on voit aussi des adolescents toucher, caresser les photographies de jeunes filles dénudées comme si elles étaient présentes en réalité. Et cette illusion que la personne représentée ou la chose représentée est présente effectivement dans ce son image, cette illusion est extrêmement forte et c'est un autre aspect de la relation narcissique que nous établissons avec les images. Je vous disais tout à l'heure que l'image, nous pouvons l'habiter comme si c'était une espèce de seconde peau, nous sommes tentés aussi facilement, nous sommes constamment tentés d'imaginer que cette image, elle peut contenir de la même façon ce qu'elle représente. Alors bien sûr, encore une fois, c'est une illusion, mais c'est très important de reconnaître que cette illusion est fondatrice de la relation que nous avons aux images. Et c'est d'autant plus important que dans notre culture, comme vous savez, cette illusion a été très violemment condamnée par l'Église, puis par la psychanalyse. Cette illusion a été condamnée comme fétichiste, puis comme infantile, alors qu'en fait, elle est extrêmement fondatrice de notre relation aux images, et que si nous ne commençons pas par la reconnaître, nous ne pourrons évidemment pas nous donner les moyens d'en combattre les conséquences. Et puis, le troisième aspect du pouvoir d'enveloppement des images, c'est encore une fois une autre façon de vous dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'image crée l'illusion de pouvoir envelopper ensemble tous ses spectateurs. Il y a un pouvoir très fort de l'image qui est de créer pour chacun de ses spectateurs l'illusion qu'elle est vue de la même façon par tous les gens qui la regardent. Et les œuvres de Lacan sont traduites en japonais, chacun sait bien que ce n'est pas le même livre qui est lu, que Lacan n'est pas lu de la même façon par les Japonais que par nous, mais si la Joconde part au Japon, nous ne pouvons pas nous défaire de l'illusion que les Japonais voient le même tableau que nous, parce que l'image est inséparable de l'illusion qu'elle contient en même temps ses spectateurs qui la voient tous ensemble identique. Alors, heureusement, les images n'ont pas que ces pouvoirs d'enveloppement, d'englobement, ils ont aussi des pouvoirs de transformation. La lecture d'une image, le fait de voir une image, simplement, peut provoquer une action, un déplacement, un changement intérieur. Vous savez que les images ont été souvent invoquées comme des moyens de pédagogie pour transformer les personnalités ou pour transformer les connaissances. Et là encore, c'est important de reconnaître ce pouvoir de transformation des images et d'avoir à l'esprit qu'en fait, ce pouvoir de transformation, c'est à nous de savoir si nous allons l'exercer sur les images ou si les images vont l'exercer sur nous. Et vous allez voir que dans ce que je vais vous parler tout à l'heure, je vais beaucoup insister sur toutes les transformations qu'il est important que nous apprenions aujourd'hui à exercer sur les images qui nous environnent ou qui nous sont présentées. Alors, j'en arrive maintenant à, bien sûr, la question qui doit vous mettre en haleine depuis le début que je vous parle, à savoir comment résister à la confusion des images, à partir de ce que je viens de vous en dire jusque-là. Alors, encore une fois, le vrai danger des images, c'est que nous savons bien qu'elles ne sont pas le vrai, mais que nous ne pouvons pas nous empêcher d'y croire. Et je pense que vous repérez mieux maintenant les raisons de cette confusion. Il y a, on pourrait dire, une raison liée à notre corporéité, la façon dont l'image a été une première conquête sur notre corporéité, la façon dont nous sommes dégagés de la confusion corporelle initiale en nous construisant une première représentation imagée du monde. Cette confusion a une deuxième origine, encore une fois narcissique, et cette confusion a une troisième origine qui est notre désir d'être entouré, reconnu par un groupe. Alors, je vais envisager successivement les moyens de nous protéger contre ces trois grandes séries de risques des images. Alors, envisageons d'abord comment échapper au pouvoir des images lié à l'adhésion corporelle qu'elles entraînent. Là où le corps est engagé, il faut utiliser le corps. Et je crois que dans la relation que nous avons aux images, aujourd'hui, dans la pédagogie des images, on pourra en parler plus si vous voulez, il est très important de réintroduire le corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire réintroduire le corps ? Ça veut dire d'abord, lorsque l'image a été fabriquée par un corps, qui a pu y laisser une trace, repérer les traces de ce corps. Repérer par exemple si une photographie a été faite avec un objectif 50 ou un téléobjectif, où le photographe s'est placé, comment le cinéaste s'est positionné pour faire certains plans. Vous voyez que on n'est pas là dans une compréhension des images en soi, savoir nommer plan général, plan américain. On est au contraire dans une compréhension des images telles qu'elles ont été fabriquées, c'est-à-dire de la place de celui qui les a fabriquées par rapport à elles. Et je trouve extrêmement intéressant de remarquer que ce point de vue différent sur les images est aujourd'hui un point de vue qui me paraît en train de gagner parmi les enfants et les adolescents. Si on montre des images à des gens qui ont entre 40 et 60 ans et qu'on leur dise « eh bien », il y a beaucoup de chances pour que ces gens répondent « vous voulez dire qu'est-ce qu'elles veulent dire ?»« vous voulez dire qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ?» Mais par contre, si vous montrez des images à des jeunes, aujourd'hui à des enfants, à des adolescents, et que vous leur dites « ben alors ?» Eh bien, il y a beaucoup de chances pour que ces adolescents posent la question autrement et pour que les questions qu'ils posent soient plutôt comment est-ce que ça a été fabriqué, ou bien même que ces enfants, ces adolescents disent qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux éventuellement les utiliser avec un logiciel de traitement d'image, comment je peux éventuellement les transformer, les biduler. Et il y a aujourd'hui une évolution extrêmement importante dont il faut prendre acte. Ce n'est pas une évolution qui est liée à une pédagogie nouvelle des images, c'est simplement une évolution qui est liée au fait que les moyens de créer des images sont de plus en plus nombreux et de plus en plus accessibles au plus grand nombre. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir à quelque chose de capital. Il y a une évolution essentielle qui est en train de se passer, c'est que la passion des images aujourd'hui devient de moins en moins une passion de voir, et de plus en plus, elle sera une passion de faire, soutenue par différents objets quotidiens, que ce soit les appareils photographiques jetables, les appareils photographiques numériques, les caméscopes, les jeux vidéo, les logiciels de traitement d'image, ou même les télécommandes de magnétoscope. Or, il faut bien se rendre compte que tous ces outils dont je vous parle engagent le corps et les sens. Il faut se rendre compte que promener un appareil numérique sur son corps en regardant sur un petit écran à cristaux liquides l'image qui est fabriquée, utiliser une web caméra, eh bien tout cela engage évidemment pour celui qui le fait le corps et les sens, et tout cela réintroduit le corps et les sens dans l'image. On ne voit plus une image de la même façon quand on fabrique soi-même des images avec des outils extrêmement miniaturisés qu'on peut tenir à bout de bras, promener sur son corps, déplacer sous une chaise, et ainsi de suite. Eh bien, cette réintroduction du corps dans la fabrication des images par le plus grand nombre est, je crois, ce qui va nous permettre de plus en plus de nous questionner spontanément et naturellement sur la place du corps dans les images que nous voyons. La place du corps, c'est aussi qu'est-ce que preneur d'image aurait montré s'il avait fait un zoom arrière ou s'il avait fait une rotation à 360 degrés. Plus les gens feront des photographies, plus ils seront sensibles au cadrage et plus ils seront sensibles au fait que cadrer une image, c'est pas seulement la cadrer avec son œil, c'est aussi se placer dans l'espace d'une certaine façon, et plus les gens seront ainsi sensibles au fait que toutes les images sont des constructions et donc des points de vue. Alors je vous disais, deuxième problème des images, nous avons tendance à y adhérer parce qu'elles produisent une fascination narcissique. Alors je crois que là, il faut être très clair, les images ont un fort pouvoir d'hypnose, mais elles n'ont un pouvoir d'hypnose que sur ceux qui ont envie de se laisser hypnotiser. Et pourquoi est-ce que nous aurions envie de nous laisser hypnotiser ? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, pour échapper à l'angoisse narcissique, pour échapper à l'angoisse de l'imprécision où nous sommes, de pouvoir nous définir nous-mêmes, de savoir ce que nous sommes, à quoi nous servons, l'angoisse où nous sommes de nous sentir partagés entre des désirs contradictoires et difficilement conciliables. L'hypnose de l'image, elle est d'abord organisée par le désir du spectateur de s'hypnotiser lui-même. Et lorsqu'on parle de manipulation des images, de manipulation de l'information, on est évidemment toujours tenté de chercher un manipulateur et un manipulé. Mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit que souvent, le manipulateur est lui-même à manipuler, en ce sens qu'il cherche lui-même à s'hypnotiser des images qu'il propose aux autres pour lutter contre ses propres blessures et contre sa propre ambivalence, contre ses propres angoisses narcissiques. Alors, ce n'est pas pour autant, évidemment, que ça lui donne des excuses, mais c'est une façon, je crois, d'éviter prêter des intentions manipulatrices à des gens, souvent, qui ne font que répercuter, retransmettre des images qu'ils ont d'abord reçues et auxquelles ils ont adhéré de façon inconditionnelle pour surmonter leurs propres blessures intérieures. Alors, pour lutter contre la fascination narcissique des images, pour lutter contre le risque d'hypnose des images, il nous faut bien sûr apprendre à reconnaître nos propres souffrances narcissiques, nos divisions, nos ambivalences, nos souffrances personnelles. Mais il y a aussi, heureusement, un moyen qui concerne les images elles-mêmes. Et ce moyen, c'est d'accepter et même de rechercher les failles dans les images. Qu'est-ce que j'appelle les failles dans les images ? Eh bien, le fait que les images vraies, les images les plus vraies, disons, sont les images qui sont le plus près du monde. Or, le monde est fondamentalement contradictoire. Le monde n'est jamais homogène. Le monde est fondamentalement divisé, partagé entre des choses qui, justement, nous posent beaucoup de problèmes parce qu'elles sont rarement et même toujours inconciliables. Alors, les images, en fait, je crois, doivent être à l'image de ces failles qui partagent le monde, et il est important que les images introduisent le jeu du doute. Et je dirais que toutes les images qui n'introduisent pas le jeu du doute portent un risque hypnotique, et qu'inversement, toutes les images hypnotisantes sont des images qui n'introduisent pas le jeu du doute. Et encore une fois, ce n'est pas seulement le cas des images visuelles, matérielles, c'est aussi le cas des images parlées ou écrites. On peut dire les choses autrement. Toutes les fois où nous cherchons à isoler un fragment du monde, aussi petit soit-il, il faut nous faire à l'idée que dans ce petit fragment, il y a des remous, il y a des tourbillons, il y a des mouvances, il y a des trajets imprévus, il y a des contradictions, il y a du centrifuge et du centripète. Eh bien, c'est tout cela que les images, aussi bien visuelles que verbales, doivent s'employer à privilégier. Et j'irais même jusqu'à dire que l'image homogène, l'image qui se donne comme limpide, comme absolument univoque, est toujours une image qui porte un risque totalitaire. Alors, on peut dire les choses autrement, c'est aussi toujours une image qui porte l'illusion pour son créateur du caractère non contradictoire du monde. Mais pour celui qui la reçoit, c'est toujours une image qui porte un risque totalitaire. Et aujourd'hui, nous avons de telles images, par exemple, parmi les choses qu'a réalisées Leni Riefenstahl, ce sont des images pures, sans tache, et vous savez que ce sont des images tellement nettes qu'on continue à craindre qu'elles donnent des idées trop nettes à certaines personnes. Donc il est très important que l'image soit porteuse, soit le reflet de ces failles et de ces contradictions qui existe dans le monde et qui existe dans chacun d'entre nous. Et puis, je vous disais, il y a une troisième origine à la confusion où nous sommes de la vérité du monde et des images. Cette troisième source de confusion, c'est notre désir d'adhérer à un groupe. Alors, nous sommes des êtres éminemment sociaux et il est bien évident que, encore une fois, nous avons absolument besoin des autres, des tiers, des groupes pour valider nos représentations du monde. Par contre, s'agissant de nos relations aux images, je me ferai résolument l'apôtre d'une conception individualiste des images. Je crois que l'un des grands problèmes actuellement de l'éducation aux images, c'est qu'elle les prend comme des sources d'informations sur le monde, dans le pire des cas. On montre, par exemple, on veut faire un débat sur l'amour, pour organiser un débat sur l'amour, on va d'abord montrer un film sur l'amour. Ou bien on veut faire un débat sur la violence à l'école, alors on va d'abord montrer un film où il y a de la violence à l'école. C'est-à-dire que l'image est utilisée comme un moyen d'information sur le monde, ce qu'elle n'est évidemment pas. Un film sur l'amour ne nous éclaire que sur l'idée que le réalisateur en avait, et un film sur la violence à l'école, même chose. Alors, il y a un progrès qui est fait lorsque on commence à utiliser les images comme une source de questionnement sur elles-mêmes. C'est-à-dire, on va regarder un film sur l'amour, mais pour voir comment on peut faire aujourd'hui un film sur l'amour. Puis on regardera, par exemple, un film sur l'amour des années 30, et on verra comment, dans les années 30, on faisait différemment un film sur l'amour. Même chose pour un film sur la violence à l'école, on n'en faisait pas un dans les années 70 comme on pourrait le faire aujourd'hui. Et je crois que c'est très important d'utiliser les images comme une source d'information sur elles-mêmes. Je dirais même que les images aujourd'hui sont un problème assez grave pour qu'on cesse de les utiliser comme moyen de nous informer sur le monde, ce qu'elles font au passage, mais ce qu'elles font mal souvent. Et il vaut mieux les utiliser d'abord comme une source d'information sur elles-mêmes, au moins dans la pédagogie des images. Mais il y a une troisième façon d'utiliser les images, c'est de les utiliser comme une source d'information sur soi. Et évidemment, en tant que psychanalyste, c'est ce qui me paraît le plus intéressant. C'est extrêmement intéressant de remarquer qu'une image qui peut me bousculer, me bouleverser, laissera mon voisin indifférent, qu'inversement, une image qui peut me laisser indifférent va complètement malmener et mettre sans dessus dessous mon voisin. Et c'est extrêmement important d'apprendre à utiliser les images comme une source d'information sur nos zones de fragilité personnelle, sur les événements de notre histoire qui peuvent être réveillés par telle ou telle image. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, nous pourrons y gagner une beaucoup plus grande clairvoyance sur nous-mêmes. Le grand risque, en effet, c'est que lorsqu'une image nous bouleverse pour des raisons qui nous sont éminemment personnelles, nous nous cachions à nous-mêmes ces raisons personnelles et nous soyons tentés d'adhérer au groupe de ceux qui sont scandalisés par la même image, éventuellement pour d'autres raisons, comme si nous étions tous pris dans la même, dans les mêmes raisons d'être scandalisés, alors qu'en fait ces raisons peuvent être personnelles à chacun d'entre nous, ou avoir tout au moins une forte partie, liée à notre histoire à chacun. Alors, utiliser les images comme une source d'information sur soi, c'est pas pour autant renoncer à une éducation aux images, je dirais, en soi. L'éducation aux images en soi est importante, mais je crois qu'elle doit se compléter et qu'elle doit même débuter par une éducation aux images sur soi. Alors, je dirais encore que cela ne concerne pas que, bien sûr, l'éducation nationale ou les spécialistes des images. Je crois que cela concerne tout le monde et notamment les parents. Et je donnerai un dernier exemple pour terminer. C'est le film Jeanne d'Arc de Besson. Vous savez que dans ce film, il y a une scène de viol qui est extrêmement bouleversante et beaucoup de parents vont voir ce film avec leurs enfants en pensant que ce film ne contient rien de semblable. Et puis les parents sont bouleversés, les enfants aussi. Les parents manifestent forcément leur bouleversement pendant la projection, ils bougent sur leur siège, ils ont des gestes d'inquiétude par rapport à ce que leurs enfants peuvent voir, et les enfants bien sûr perçoivent tout ça. Et puis à la sortie, beaucoup de parents se disent le mieux c'est que mon fils ou ma fille oublie tout ça le plus vite possible. Et si je n'en parle pas, il a d'autant plus de chances d'oublier. Le grand problème, c'est que les enfants qui sont bouleversés par ces choses et qui sentent bien que leurs parents l'ont été aussi, vont, eux, se construire un discours intérieur différent. Ces enfants vont se dire la chose suivante. Ils vont se dire j'ai été bouleversé par cette séquence, mes parents aussi l'ont été, je l'ai bien senti, mais mes parents n'en parlent pas. C'est donc que être adulte, être grand, c'est ne pas parler de ces choses. C'est donc que être adulte, être grand, c'est ne pas évoquer les effets sur soi des images. Et c'est évidemment un fort mauvais chemin parce que ensuite les images vont pouvoir être évoquées dans leur construction. Ces enfants peuvent devenir très calés dans l'analyse des images, mais ils auront perdu parole en quelque sorte pour quelque chose de très important qui est le lien personnel, subjectif, affectif qui nous lie chacun aux images. Voilà, je ne sais pas si donc vous étiez sensible aux raisons pour lesquelles nous pouvons nous sentir autant pris dans la vérité des images, mais j'espère en tout cas que vous êtes maintenant conscient du fait que ce n'est pas une fatalité et que nous avons des moyens pour lutter contre cette fascination. Merci de votre attention.
J'ai vu dernièrement à la télévision un film où étaient projetées de nombreuses images faites par des caméras d'amateurs. Et ça portait sur la période, sur la période de l'entre-deux-guerres et de la guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que le fait de connaître la qualité de ceux qui font les images ne permet pas de donner crédit ou au contraire de ne pas donner crédit à l'image? Autrement dit, en voyant ce film, le fait qu'il ait été produit par des amateurs qui ne subissaient pas notamment les influences totalitaires de leur pays permettait de croire à ces images alors que des films de propagande, aussi bien d'un côté que de l'autre, pouvaient être sujets à caution. Alors ma question est que, est-ce que les créateurs, est-ce que quand on a des informations sur les créateurs d'images, finalement, ce n'est pas un moyen de lutter contre la publicité ou la désinformation en général?
Oui, c'est un des moyens, c'est l'un des trois moyens, c'est l'un des éléments qui rentre dans ces trois moyens que je vous décrivais. Mais en fait, ces trois moyens sont très complémentaires parce que les raisons pour lesquelles nous avons tendance à adhérer aux images, comme je vous l'ai montré, sont eux-mêmes complémentaires. Une adhésion corporelle, une adhésion narcissique, une adhésion groupale. Alors, quand on connaît en effet mieux les particularités d'un producteur d'images, on peut mieux repérer ses tics, ses habitudes, ce qu'il a tendance à privilégier et qu'un autre ne privilégierait pas. Donc ça permet en effet d'avoir plus de distance par rapport à ce qu'il fait. Mais cela, à mon avis, ne doit pas du tout nous détourner d'utiliser d'autres moyens dont nous pouvons disposer et au premier chef d'utiliser les images, encore une fois, comme un moyen de questionnement sur soi à travers les effets qu'elles produisent sur nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là, en plus, quitter le domaine des images pour entrer dans le domaine de la communication familiale, on pourrait même dire de la communication citoyenne, que chacun communique autour des effets personnels que les images produisent sur lui, plutôt que de s'en remettre à un discours consensuel sur ce que chacun est censé éprouver face aux mêmes images.
J'ai une question.
On m'entend, oui.
Là-bas, d'autre côté.
Voilà, ma question est celle-ci. Est-ce que, vous employez le mot totalitaire, est-ce que notre démocratie dérive vers la démocratie totalitaire? Je vais vous raconter deux épisodes qui m'ont frappé hier et aujourd'hui. En Angleterre, M. Blair vient de terminer son congé de maternité, il arrive aux communes, on lui dit, voilà, il y a une grave chose qui se passe. On vient de faire un film à Hollywood où on présente un sous-marin allemand coulé par l'amirauté britannique avant que l'Amérique entre en guerre. Or, ce film aux États-Unis est fait comme si c'était les Américains qui l'avaient coulé, n'est-ce pas, et en guerre, alors qu'il n'y était pas. Bon, ça fait beaucoup de bruit. À la Chambre de communes, on arrive à ceci, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'il faut interdire ce film en Angleterre. Deuxième chose, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut mettre dorénavant sur tous les films ceci est un film de fiction ou ceci est un film documentaire. Ça, c'est donc un premier fait. Un deuxième fait qui me frappe, alors ça nous touche de très près, dans le monde d'aujourd'hui, il y a écrit Paris, capitale de la fraude. Alors, c'est répercuté immédiatement par les États-Unis, le Japon, dans tous les postes de radio, on parle de ça. Paris est devenu, il y a un problème de fraude énorme. Alors ça va nous revenir en boomerang, on va dire, est-ce que ça va influencer notre société, qui vont se dire, mais oui, après tout, Paris est gouverné par une mafia frauduleuse, n'est-ce pas? Alors, je parle de la dérive totalitaire, parce que ça influence les gens, et ils réagissent d'une certaine façon, comme on réagissait en Russie au sang contaminé, à des histoires comme la vache folle, où pour avoir des crédits de 800 millions de roubles, n'est-ce pas, on a entendu quelqu'un dire « Oh ben, écoutez, 40 000 victimes, c'est pas grave, il faut de l'argent pour l'an prochain. Ce monsieur, donc administrateur de ces domaines médicaux, dit, après tout, en Chine, il y a eu 35 millions de morts. Donc, il faut que la société avance et que moi, il faut mon argent. » Voilà ce qui m'a été dit par plusieurs Russes, notamment des gens qui font des tests ici à Paris. Merci, monsieur.
Alors, je commence par votre deuxième question, si j'ai bien compris, la question fiction-documentaire. C'est bien, en effet, d'avoir à l'esprit qu'il est important de savoir comment les images que nous avons vues ont été fabriquées. Le grand problème, c'est qu'à mon avis, la distinction fiction-documentaire est une distinction qui tient de moins en moins et qui tiendra de moins en moins. Si vous avez vu le film Level 5, vous avez vu qu'il y est clairement montré comment des documents qui ont été présentés comme des documents documentaires étaient en fait des documentaires tournés 20 ou 30 ans avant et qui ne présentaient aucun caractère d'information sur les conflits en cause. C'est-à-dire que c'est des documents de guerre recyclés, en particulier Un soldat en flammes tourné pendant la guerre du Pacifique. Et le film Level 5 montre bien que ce soldat a été utilisé pour des tas de conflits pour lesquels on n'a pas d'image. Bon, actuellement, vous savez que l'agence France Presse va fabriquer des images de synthèse pour les événements dont elle n'a pas d'image. Au début, il est bien évident qu'elles seront clairement reconnaissables, mais très vite, elles seront d'une telle qualité qu'on ne les reconnaîtra plus. Évidemment, il y aura peut-être un petit logo qui l'indiquera, mais pour beaucoup de gens qui zappent, eh bien, ça sera très difficile à repérer. Et inversement, beaucoup de documents de fiction sont des documents qui nous présentent des choses vraies, par exemple des scènes d'amour dont on apprend 3 mois après le tournage qu'en fait elles ont réellement été vécues par les acteurs qui y étaient engagés. Donc traditionnellement on disait qu'il fallait éduquer les enfants en répondant toujours à leurs questions sur la vérité des images, en disant soit si les images étaient des images de fiction, ce n'est pas vrai, ce sont des images pour de faux, et si c'était des documents documentaires absolument certifiés, il était conseillé de répondre aux enfants, oui, ce sont des événements pour de vrai, les gens meurent pour de vrai, souffrent pour de vrai ou s'aiment pour de vrai. En fait, je crois qu'avec le développement actuel des images, il faudra être beaucoup plus modeste et seulement dire aux enfants, dans tous les cas, que ce sont des images construites de telle façon qu'on y croit comme si c'était du vrai, ou que ce sont des images construites de telle façon qu'on pense que c'est du faux mais qu'on ne sait pas. Et vous avez vu d'ailleurs que peut-être qu'il va y avoir des nouvelles formes d'émissions télévisées tournées par des volontaires enregistrées 24 heures sur 24 et ça sera bien difficile de savoir si ce qu'ils vivent c'est pour de vrai ou s'ils jouent la comédie. Alors la seconde question que vous posez à mon avis monsieur c'est la question du totalitarisme à travers les images. Alors c'est évidemment, il faut que chacun soit vigilant par rapport aux gens qui nous dirigent, que ce soit à un niveau national ou à un niveau local, bien sûr. Mais je crois qu'il faut aussi apprendre à être sensible à ce que j'appellerais le totalitarisme familial. Et s'agissant des images, aujourd'hui, le totalitarisme familial est quelque chose qui me paraît bien aussi préoccupant, que même peut-être plus, que le totalitarisme d'État. Avec les nouvelles technologies, tout le monde attendait Big Brother. Tout le monde attendait une espèce d'État qui allait mettre des caméras partout et contrôler tout le monde, comme dans 1984 d'Orwell. Or, le gouvernement n'a pas mis encore des caméras partout. Par contre, vous savez peut-être que des parents demandent que des caméras soient installées dans les crèches pour que leurs enfants puissent être filmés constamment, que les gens qui s'en occupent puissent être filmés constamment et pour que ses parents puissent aller sur le site web voir à tout moment comment leurs enfants se comportent. C'est-à-dire qu'en fait, les images portent l'illusion du savoir par le voir, c'est la première des illusions que je dénonçais, et il faut savoir que cette illusion n'est pas seulement une illusion qui nous guette chacun dans notre relation aux images, mais c'est aussi une illusion qui risque de porter des pratiques, à mon avis, dangereuses, comme celle des web caméras dans les crèches, ou encore celle de ce qu'on appelle les cyber-bébés.
Une question en haut, là,
oui,
monsieur.
Oui, bonsoir. Vous évoquiez tout à l'heure le côté un peu, disons, trop net des photos de Leni Riefenstahl. Est-ce que vous pourriez souligner un peu la différence qu'il y a entre justement la façon dont Leni Riefenstahl a photographié les Nubas et la façon dont Rogers a photographié également les Nubas ? Si vous connaissez Rogers...
Pas assez pour faire le parallèle. Ah.
Donc, une autre question ? Madame là-bas.
Oui, d'accord, déjà dans l'image. Au début, vous avez commencé en disant que les publicitaires nous manipulent en créant un j'aime. et que notre façon de résoudre cette malaise, c'est d'en parler, devenant du coup le porte-parole des publicitaires. Et vous avez terminé en disant qu'on peut reprendre le pouvoir sur l'image choquante de Jeanne d'Arc en parlant de cette image. Est-ce que vous pouvez expliquer comment on peut résoudre ces gènes qui sont créés par ces images et qui sont créés pour nous manipuler de façon qu'on en parle, devenant le porte-parole de ces images, sans devenir le porte-parole de ces images?
Oui, je crois que ce qui est important, c'est de privilégier dans la construction de nos représentations du monde, ce qu'il peut y avoir de plus personnel dans ces représentations. C'est pas seulement un service que nous nous rendons à nous-mêmes de travailler le caractère personnel de nos représentations, d'essayer de savoir précisément ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous imaginons. Je dirais même que c'est un service que nous rendons aux autres parce que, du coup, nous pouvons leur proposer un monde intérieur plus nuancé, plus riche, et qui est une invitation pour les autres à avoir eux aussi un monde intérieur plus nuancé et plus riche. Alors, lorsque une image crée chez nous un état de malaise, je vous disais qu'en parler, en parler autour de soi, c'était courir le risque de se faire le propagandiste de ces images. Mais ce n'est pas uniquement le fait d'en parler qui va nous rendre le propagandiste de ces images. Je crois que c'est le fait d'en parler, justement, en passant sous silence le caractère personnel des effets sur nous de ces images. C'est d'en parler comme si les images avaient objectivement en soi le pouvoir de créer ce qu'elles créent chez moi, alors qu'aucune image n'a objectivement le pouvoir de créer ce qu'elle crée chez moi. C'est la rencontre de l'image et de ma personnalité qui fait que j'éprouve ce que j'éprouve. Donc je crois que plus nous particulariserons ce que nous éprouvons face aux images, et plus les autres, plus les gens à qui nous en parlerons seront invités eux-mêmes à particulariser ce qu'ils éprouvent, et plus on évitera les phénomènes d'adhésion collective au plus petit commun dénominateur de ce qui peut être mobilisé par une image. Ce plus petit commun dénominateur qui peut être la colère, l'angoisse, la honte, avec le risque que ce plus petit commun dénominateur devienne éventuellement un moteur commun dans des interventions de groupe.
Une question là-haut. Quelqu'un doit avoir un micro. Je suis. Oui, allez-y.
C'est
allez-y.
Moi.
J'en ai deux. Allez-y, monsieur, là, sur ma. Okay. Oui, vous.
L'importance de la troisième dimension. Ma question est à propos de l'importance de la troisième dimension dans l'image. Je suis des analystes économiques qui se lancent au niveau des. Qui disent que l'avenir de le commerce électronique connaîtra. Connaîtra un énorme progrès avec le passage de l'image de deux dimensions en trois dimensions. Je voudrais savoir votre analyse de ce point de vue et avec la comparaison entre une image les effets d'une image de deux dimensions par rapport à une image de trois dimensions. Parce qu'il y a des sites internet qui proposent maintenant des images en 3D pour les achats. Donc, quel effet ça apporte la troisième dimension? Et merci.
J'en ai pas assez l'expérience pour vous dire, mais a priori, j'ai tendance à penser que ce qui est important, c'est tout ce qui réintroduit la dimension du corps par rapport à l'image. Et que introduire les trois dimensions dans une image, c'est certainement faire appel de sensorialité, de synesthésie, d'impulsions motrices dans le corps qui vont modifier notre relation aux images et qui va rendre d'autant plus important cette prévention dont je vous parlais. Lorsque les images même seront des hologrammes, lorsqu'on les verra en trois dimensions comme des hologrammes, ça sera d'autant plus important que ce travail psychique que j'évoquais auprès de vous soit mené et que les enfants y soient encouragés. À mon avis, le 3D, l'hologramme, tout cela rendra d'autant plus nécessaire ce que je vous disais, c'est revenir au corps, revenir aux moyens de fabrication, revenir à l'angoisse que mobilisent chez nous des images contradictoires parce qu'elles résonnent trop avec nos propres contradictions.
Encore deux questions. La dame qui est... Oui, allez-y, allez-y.
La question que je voudrais poser situe un peu en symétrie à celle qui vient d'être posée, mais la réponse que vous avez apportée m'en suggère une autre. Non, en fait, vous avez dit tout au début de votre discours que les images qu'on nous racontait avaient autant d'importance que celles qui étaient vues. Donc, si j'ai bien compris, c'est les images discursives sont, ont aussi un impact sur nous, par, enfin, peut-être pas la même, avec la même force, mais enfin, la même importance que celles qu'on voit. Et là, vous venez de parler de l'importance de, du corps, en fait. Donc, c'est en relation avec le deuxième point, c'est-à-dire la, la partie narcissique de, que vous avez évoquée dans votre discours. Et je voulais savoir... si en fait les images discursives permettaient pas justement une réponse, enfin une défense plus facile que les images vues et encore plus que les images vues en 3D. Le travail de défense, est-ce qu'il n'est pas plus facile dans les images qu'on lit, les images qu'on se raconte, que les images qu'on voit?
Peut-être oui, peut-être non. Je veux dire, je crois que ça dépend de la relation que nous avons chacun avec le discours ou avec les images. Mais je crois que ça serait une erreur de considérer que, a priori, les images véhiculées par le discours, comme des choses vues, seraient des images vis-à-vis desquelles il serait plus facile de se protéger. Je crois que les moyens de nous protéger sont les mêmes. Il faut inviter la personne qui nous présente des images discursives comme des choses vues. Il faut l'inviter à nous préciser sa position dans l'espace. On ne raisonne pas de la même façon quand on voit les choses d'une voiture ou quand on les voit en train de marcher dans un champ. Et il faut toujours revenir à la position du corps de celui qui a fabriqué les images, que ce soit des images visuelles, matérielles, ou que ce soit des images psychiques qu'il nous raconte. Mais moi, j'invite toujours les gens à revenir à cette expérience simple, qui est ce qui se passe pour nous quand quelqu'un nous raconte son rêve le matin. Eh bien, nous créons des images du rêve que la personne nous raconte. Il est bien évident que les images que nous avons à l'esprit ne sont pas les images que la personne qui nous raconte son rêve a à l'esprit, et il est bien évident que les images que la personne qui raconte son rêve a à l'esprit quand elle le raconte ne sont pas non plus les images précisément que cette personne a vues dans son rêve. Et pourtant, nous sommes toujours dans ces situations-là, plongés dans l'illusion, premièrement, que la personne qui nous raconte son rêve nous raconte bien son rêve, et deuxièmement, que nous le visualisons comme la personne nous le raconte. Et c'est-à-dire qu'on voit bien à ce moment-là que les images véhiculées par le langage ont un très fort pouvoir, non seulement d'évoquer des images psychiques, mais encore de nous faire croire que ces images psychiques sont partagées, alors qu'à l'évidence, elles ne le sont pas. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce pouvoir des images véhiculées par le langage. C'est pour ça que je les mets sur le même plan dans les stratégies de résistance que nous devons mettre en place contre leurs risques.
Une dernière question, madame.
Oui, moi, j'ai une question qui est peut-être un petit peu trop générale pour l'heure à laquelle elle est posée. Mais... c'était un peu dans le thème, et je ne sais pas si ça a été trop évoqué, par rapport à l'impact de l'image dans la publicité. Et j'aurais voulu savoir comment est-ce que... Parce que je ne me sens pas visée par le problème. Mais j'aurais voulu savoir comment est-ce que vous pensez que les publicitaires procèdent pour faire agir l'image, que ce soit par voie d'affiche ou par le biais des spots télévisés, comment est-ce que vous pensez que les publicitaires s'y prennent pour faire agir l'image sur notre psychisme et nous pousser à la consommation, à l'achat ou à la tentation, enfin à la conviction que le produit répond à un besoin?
Oui, c'est ce que j'évoquais au début, c'est que je crois qu'il faut sortir de l'idée que les images de publicité exciteraient des désirs particuliers qui seraient ensuite détournés vers un objet. Je crois que les publicités créent des états du corps, des sensations, des émotions dont nous tendons à nous donner des représentations pour les maîtriser. Et nous allons nous donner des représentations en retrouvant à l'intérieur de nous des représentations proches qui peuvent expliquer les états du corps dans lesquels nous mettent ces publicités, soit nous allons tendre à nous donner des représentations de ces états du corps en parlant des publicités, en se faisant les propagandistes, en parlant de façon minimale, tiens, j'ai vu quelque chose de drôlement bien ou de drôlement cochon ou c'est scandaleux ce que j'ai vu, je vais te raconter. Ou alors, troisième chose, nous allons aller acheter le produit comme une façon de résoudre ce malaise. Mais je crois que c'est toujours au malaise créé par la publicité, qui peut être un malaise de colère, de honte, de gêne, ou un malaise d'exaltation créé par certaines publicités, même d'euphorie créée par certaines publicités maniaques. Il y en a beaucoup qui communiquent une espèce d'état d'euphorie, mais un état d'euphorie qu'on ne sait pas très bien comment gérer. Et encore une fois, acheter le produit va être une façon de gérer doublement cette situation, d'accomplir des actes, donc d'avoir des représentations motrices en liaison avec l'état du corps qu'on éprouve, et puis d'autre part, avoir l'illusion de se rattacher par ce moyen-là au groupe de tous ceux qui éprouveraient le même malaise et qui le résoudraient de la même façon.
Serge Tisseron, je vous remercie.